Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. Ce soir, c'est Léo qui s'est entretenu avec Xavier Métay, coordinateur de France Nature Environnement pour les Pays de la Loire, avec qui il a discuté tram noire et pollution lumineuse. C'est également Léo qui nous rejoindra en studio avant la fin de cette émission pour sa chronique internationale. Très bonne émission à toutes et à tous.
Avant la tenue de notre émission Canal Citoyen mercredi 12 mai à 18h, consacrée à la transition écologique et au déplacement, Radio Campus Angers vous propose ce soir une petite mise en bouche dans ce même thème d'environnement. Je suis en studio avec Xavier Métay, coordinateur de France Nature Environnement Pays de la Loire, pour discuter pollution lumineuse. Bonjour Xavier.
Bonsoir.
Merci d'avoir répondu à notre sollicitation. On va parler dans un premier temps de la Fédération avant de se consacrer à la raison plus précise de votre venue, à savoir la publication d'un guide relatif à la pollution lumineuse à destination de toute personne qui s'y intéresse et des décideurs locaux. Mais d'abord, France Nature Environnement, c'est une fédération d'une centaine d'associations, 25 000 adhérents, et qui regroupe des associations de protection de la nature et de l'environnement de la région. Il y en a 7 dans le Pays de la Loire, si je ne me trompe pas.
Alors voilà, en fait, on a maintenant 8 adhérents directs qui payent leur cotisation directement. Et ces 8 associations sont elles-mêmes souvent des fédérations d'associations, ce qui explique le chiffre d'une centaine d'associations locales qui font partie du mouvement France Nature Environnement Pays de la Loire.
4 objectifs auxquels tend la fédération. Protection et valorisation de la biodiversité, sensibilisation et information du grand public, relever les problèmes et en faire part aux institutions, et enfin faire des propositions pour faire avancer la cause environnementale. Première question, Xavier, l'environnement et la biodiversité, c'est large, peut-être que tu peux préciser dans quel domaine France Nature Environnement intervient, en tout cas dans la région.
Alors effectivement, l'environnement, c'est un domaine très large et France Nature Environnement a la particularité d'essayer d'embrasser ce champ large de l'environnement, de la biodiversité. Donc on va travailler autant sur des sujets liés au transport, aux mobilités durables, à l'énergie, transition énergétique, etc., à aussi la gestion des déchets, la protection de la ressource en eau, la biodiversité, tout ce qui va être aussi santé, environnement. Oui, donc on embrasse tous les jours un maximum de deux sujets, ce qui fait qu'on est, nous, on est une association de fédération régionale généraliste et on s'appuie sur notre mouvement associatif où il y a des associations spécialistes. Ouais, par exemple, on peut citer Virage Énergie Climat qui est adhérent chez nous, qui est vraiment spécialisé sur la transition énergétique avec la sortie là, au mois de mai 2021 d'un nouveau scénario négawatt régional. On a aussi la coordination régionale LPO qui est adhérente chez nous. Donc voilà, donc on a besoin
de données. LPO, Ligue de protection des oiseaux.
Ligue de protection des oiseaux. Donc voilà, donc on a besoin des données naturalistes, on s'adresse à eux. Donc voilà, donc, on a cette richesse de notre mouvement associatif.
Et comment ça se passe justement au niveau de la gestion? C'est l'ensemble des fédérations qui donnent des grandes directives à conduire et ensuite les fédérations plus spécialisées se mettent en œuvre dans leur domaine d'application?
Alors là, fonctionnement de mouvement associatif, hein, voilà, donc c'est chaque association a ses dadas, ses objectifs, a ses sujets sur lesquels elle travaille. Et toutes ces associations se réunissent à travers des fédérations départementales. Je pense par exemple dans le Maine-et-Loire, c'est la Sauvegarde de l'Anjou qui fédère ces associations locales. Et voilà, c'est cette fédération départementale qui va faire le tri un peu des sujets qui ressortent du chapeau, on va dire, qui sont les plus importants à être pris à bras-le-corps par cette fédération départementale. Et on fait de même au niveau régional, on va prendre vraiment les sujets qui ont un intérêt régionaux ou alors qu'on décide de porter politiquement pour justement peut-être de parfois faire émerger. Et c'est le cas justement avec les thématiques tram noire qui nous réunit aujourd'hui.
Ouais, vous avez parlé de transition écologique, traitement des déchets, gestion des eaux. Vous avez des exemples concrets qui pourraient illustrer un petit peu ces domaines d'intervention?
Par exemple, sur le département du Maine-et-Loire, nos associations sont assez actives là depuis quelques années sur le sujet on va dire de réfléchir à limiter l'extension de l'urbanisation, de l'artificialisation des terres. On parle de plus en plus là dans les médias de la protection des zones humides.
Des 54 hectares.
Voilà, par rapport à des projets d'aménagement. Voilà, donc nous, ça fait des années qu'on travaille sur ces sujets-là. Et là, on a effectivement un petit scope là, médiatique dessus. Mais c'est pas nouveau. On a eu d'autres projets d'aménagement comme ceci. On a des sujets comme, par exemple, tous les étés, on a dans le département et dans la région un combat, on va dire, sur la ressource en eau. faire le choix, est-ce que d'une gestion collective de l'eau, donc nous, c'est les sujets que l'on porte avec la protection de la ressource en eau, la question de l'épandage de produits phytosanitaires, donc des pesticides à la proximité des riverains. On a travaillé sur la charte départementale qui correspond justement à la protection des riverains. Donc voilà, donc ça fait un ensemble de sujets qui sont à chaque fois ont un point commun, c'est la transversalité. Nous, on lutte, on combat, on va dire, pour l'intérêt général de l'environnement. On est les porte-parole, on se fait force de proposition pour améliorer notre cadre de vie et garder un monde vivable pour nous, mais aussi pour les générations futures. Et donc nous, quand on agit auprès des collectivités, auprès des services de l'État, c'est vraiment pour mettre en avant l'intérêt général et non pas des intérêts particuliers ou des intérêts économiques.
Ouais, c'est ce qui veut différencier ce que vous faites, à savoir du plaidoyer, du lobbying plus traditionnel qui sert des intérêts privés.
Exactement, voilà, vous avez bien défini ça. Voilà, nous, on est vraiment une force de plaidoyer dans l'intérêt général. On participait dimanche dernier, là, le 9 mai, à la marche pour le climat, par exemple. Voilà, on est là pour essayer d'améliorer tout ce qui va être la réglementation, la mise en place concrète de ces actions.
L'un de vos objectifs, je le disais tout à l'heure, c'est la sensibilisation du grand public. Est-ce que vous y parvenez à y répondre à cet objectif et comment ?
Alors nous, on y arrive, France Nature Environnement Pays de la Loire, on tient nous-mêmes parfois des stands. Cet été, on va parcourir la Loire à vélo avec notre vélo cargo et aller à la rencontre des riverains, mais aussi des touristes qui seront fortement présents sur notre région cet été, pour les sensibiliser justement à la qualité de l'eau, à la protection de la ressource en eau, et les inviter à participer à la consultation du SDAGE Loire-Bretagne. Donc voilà, on y arrive nous directement, et puis nos associations le font aussi, des travaux de tous les jours. Voilà, donc dans notre mouvement associatif, la place de la sensibilisation du grand public, de la communication à une place entière.
Et il y a des temps forts, entre guillemets, dans l'année pour les associations ?
Alors on
a des grands rendez-vous à pas manquer, là, d'autant que l'activité associative va pouvoir reprendre.
Alors on espère effectivement reprendre là cet été pas mal de nos actions. On a des associations qui, ces derniers mois, ont eu du mal à organiser leur sortie naturaliste, leur sortie terrain pour emmener justement des citoyens découvrir la nature. Donc ça va reprendre là progressivement. On a nous cet été, je le parlais, notre action Loire à vélo pour aller à la rencontre des gens. Et puis certainement sur la côte vendéenne, peut-être même du littoral de Loire Atlantique, des actions pour sensibiliser aussi les touristes à l'importance de la laisse de mer et qu'on ne nettoie pas les plages n'importe comment, etc. Donc vous voyez, on va essayer de reprendre les activités, on va dire, en présentiel sur le terrain, en respectant les protocoles sanitaires. Mais c'est vrai que ces derniers mois, c'était un peu compliqué pour mener tout ça.
Plus personnellement, quel est ton rôle de coordinateur au sein de France Nature Environnement ? Quelles sont les tâches qui te sont confiées ?
Alors essentiellement, de mettre de l'huile dans les rouages pour que tout fonctionne, pour que quand on a une association locale qui a une super belle idée, elle puisse la réaliser et potentiellement aussi la valoriser auprès de d'autres associations pour que cette initiative puisse faire boule de neige et qu'on puisse l'étendre à d'autres territoires. Donc ça c'est, voilà, moi je suis là pour essayer d'amener le mouvement associatif à se consolider, à se construire. Et puis j'ai aussi un rôle d'appuyer les bénévoles qui siègent dans les commissions, dans les réunions où notre association siège, justement, pour que nos bénévoles puissent être les porte-parole de l'ensemble du mouvement associatif, et pas seulement d'une association locale, mais parle vraiment en tant que fédération régionale. Et puis, que quand on gère une association, il y a tout ce qui va être ressources humaines, gestion administrative et financière, qui est l'eau quotidien.
Et qu'est-ce qui t'a motivé, poussé à t'engager dans la cause environnementale ?
Eh bien, les enjeux qui sont ceux qu'on connaît tous aujourd'hui de destruction de la biodiversité, de défis climatiques, etc., qui existent quand même depuis de nombreuses années, peut-être plus à la mode aujourd'hui, en tout cas dans les discussions de tous les jours, mais qui existent depuis de très nombreuses années. Et puis cette envie d'être utile et de voir son travail se réaliser concrètement et de se sentir participer à un combat pour arriver à un monde vivable dans lequel on veut être aujourd'hui et demain.
Pour l'intérêt général. Une dernière question avant de passer à la thématique plus précise de notre entretien. Vous organisez aussi chez France Nature Environnement des sentinelles de la nature. Vous aviez organisé une chasse aux vitrines allumées la nuit à Angers. Rendez-vous avait été donné le 16 octobre dernier à 1h du matin. Pourquoi cette action et quel bilan en avez-vous tiré ?
Alors cette action, c'était pour voir si les magasins et les commerçants et artisans du centre-ville d'Angers respectaient la réglementation qui a lieu, hein, qui est que toute vitrine et bâtiment doit être éteint entre 1h et 6h du matin. Donc juste avant le couvre-feu du mois d'octobre l'année dernière, on avait pu mener cette action et on avait pu relever sur ce qu'on avait pu contrôler, c'est-à-dire qu'un quart des vitrines qui ont été contrôlées ne respectaient pas la réglementation. Le but derrière, c'est qu'on a écrit On a été à la rencontre de ces commerçants, de ces artisans, pour les informer que la réglementation existait, qu'ils ne la respectaient pas. On a plutôt eu un écho favorable de leur part, avec pas mal de commerçants qui nous ont dit « Ah, mais on ne savait pas, ou on n'avait pas fait attention à ce que notre minuteur de vitrine, etc. était mal réglé, donc on va le faire ». Et puis on s'est aussi fait renvoyer par un certain nombre de commerçants qui disaient on a autre chose à faire en ce moment, etc. Bon, en tout cas, on va sans doute mener une nouvelle action au mois de juillet, une fois qu'on pourra sortir entre 1h et 6h du matin, quand le couvre-feu sera levé, pour aller vérifier justement l'avancée de ces commerçants qui se sont engagés à améliorer leurs pratiques. Et puis à continuer à sensibiliser les commerçants qui n'ont toujours pas respecté la réglementation. Et on avait adressé un courrier au maire d'Angers, effectivement, pour qu'il puisse aussi peut-être agir avec son pouvoir de police, pour peut-être faire avancer les choses aussi sur ce plan-là. Voilà.
Et dans le sillage de cette action, vous avez préparé ce guide à destination des collectivités pour prendre en compte la trame noire et la pollution lumineuse dans leurs documents et la gestion des territoires. C'est un document conséquent, une trentaine de pages. Petit point vocabulaire pour commencer, qu'est-ce que la trame noire et la pollution lumineuse ?
Alors la trame noire, c'est à l'instar de ce qu'on appelle la trame bleue et la trame verte. Ça permet de mettre sur une carte, on va dire, hein, si on prend une ville ou un territoire, on va pouvoir dessiner de grosses patates, on va dire, des zones et puis des corridors écologiques où on va faire en sorte de protéger la biodiversité végétale pour la trame verte, plutôt aquatique pour la trame bleue. Et puis aujourd'hui, sur les cartographies qui existent, on n'a pas de trame noire. Et donc nous, l'idée, c'est de pouvoir là aussi dessiner des zones où il y a un intérêt à ce que la nuit, ces zones-là puissent être dans le noir, et donc pour préserver cette biodiversité nocturne. Alors la pollution lumineuse, ça, on joue avec les termes, mais la pollution lumineuse, ça va être tout ce qui va être émission de lumière la nuit, forcément, et qui va venir polluer notre environnement, alors qui va venir gêner les animaux, mais aussi gêner les humains, et finalement gêner la netteté ou la noireté, on va dire, de la nuit, qui peut gêner justement pour observer les étoiles, par exemple.
Ça concerne l'éclairage public, l'éclairage privé aussi, une petite partie.
Ça va concerner les deux, l'éclairage public et l'éclairage privé. On est tous responsables de cette pollution lumineuse la nuit, et on peut tous agir, et on va pouvoir sans doute en parler un peu plus.
Pourquoi est-ce si important ?
Alors c'est important parce que de nombreuses études, françaises ou internationales, ont prouvé que le fait d'avoir trop de lumière la nuit, donc une lumière artificielle, venait gêner les animaux et ainsi que les plantes dans leur cycle de vie. À proximité, par exemple, d'un lampadaire, les arbres vont perdre leurs feuilles un peu plus tard dans l'année, à l'automne, que des arbres qui sont loin d'un lampadaire. Autour d'un lampadaire, l'été, les insectes vont venir se regrouper et vont perdre tout sens d'orientation, voire vont finir grillés avec la lampe. Et ça a un impact très fort sur le monde des insectes. Ça peut aussi gêner, par exemple, des oiseaux, des migrateurs, qui, sur leur parcours de migration, vont être gênés dans leur repère naturel par ces grands éclairages. Donc voilà, donc il y a un vrai impact sur la biodiversité, végétale et animale. Des études scientifiques et en termes de santé ont aussi prouvé que l'éclairage trop fort allait gêner notre sommeil, à nous humains, et aller nous amener des problèmes de santé à moyen et long terme. Donc c'est un impact sur notre dynamisme, ça peut provoquer certaines maladies aussi. Donc voilà, donc on a de vrais enjeux sociétaux et sanitaires, pas seulement pour les animaux, mais aussi pour les êtres humains.
Et voilà, il s'agit vraiment de protéger à la fois la faune, la flore et les êtres humains. C'est un guide qui n'est pas contraignant pourtant, c'est-à-dire qu'il est simplement indicatif pour les collectivités. Il s'agit en aucun cas d'ordre. Comment est-ce qu'il peut avoir un impact réel justement sur le travail des collectivités ?
Alors nous, on a fait le choix de sortir un guide pour encourager les collectivités, les élus et les services techniques à le faire mieux que ce que la réglementation leur impose. C'est-à-dire qu'il existe des guides techniques, hein, que l'Office français de la biodiversité ou que le CEREMA, qui est un centre d'études et d'appui au service de l'État, ont sorti là en 2020 aussi sur la trame noire, la pollution lumineuse, qui donnent des consignes. Voilà, vous voulez éclairer une rue, il faut mettre tant de lampadaires, les lampadaires doivent être à telle puissance, il existe une norme de couleurs blanche, orange, jaune, etc. Voilà. Tout ça existe. Et ce n'est pas notre travail, nous, d'association de protection de la nature et de l'environnement, que d'aller régler les lampes, etc. Par contre, on s'est dit, pour vivre dans un monde idéal, ça serait intéressant que les collectivités puissent aussi avoir des conseils sur comment rédiger, par exemple, dans un plan local d'urbanisme, où il y a un règlement pour justement tout ce qui va être aménagement urbain, voirie, éclairage des rues, éclairage des zones d'activité économique, etc., on pourrait peut-être leur proposer un type de rédaction idéal qui leur permettrait non pas de respecter un minimum ce que fait la loi, mais d'aller plus loin. Donc on a été regarder dans les documents d'urbanisme qui existent déjà en région Pays de la Loire, mais aussi ailleurs en France, des exemples très intéressants, qui avaient une longueur d'avance, on va dire, sur les autres, et puis de dire, voilà, si telle collectivité l'a fait, pourquoi pas vous ? Et si vous décidez de le faire, eh bien voilà comment vous pouvez le rédiger dans votre plan local d'urbanisme ou dans votre SCOT, donc c'est le schéma de cohérence territoriale. Voilà, donc on est là vraiment pour leur dire, c'est faisable, allez-y, il n'y a que des avantages, et en plus, on vous aide, il y a un guide qui vous dit comment mieux le prendre en compte, comment mieux le rédiger dans vos documents d'urbanisme.
Comment vous vous y prenez pour réussir à élaborer un document aussi conséquent ?
Alors, on y a travaillé de longues heures, on va dire, voilà. Donc, on a eu la chance d'avoir des financements et du Conseil régional et des services de l'État dans l'ADREAL, Pays de la Loire, Direction régionale de l'environnement, du logement, et qui nous ont permis d'avoir un stagiaire de Master 2 pendant 6 mois, qui a pu travailler, on va dire, faire la bibliographie, regarder ce qui se passait déjà sur le territoire. Et puis j'ai un collègue juriste qui a pu travailler aussi sur ces fiches. Donc il y a eu de nombreuses heures de travail, d'échange aussi. On n'a pas travaillé tout seul dans notre coin. On a travaillé avec les services de l'État. On a rencontré aussi des associations naturalistes. On a rencontré aussi des associations professionnelles. On a pu travailler avec le CIEMEL, donc le syndicat d'énergie du Maine-et-Loire aussi, pour avoir des conseils, pour avoir échangé. Hein. On ne travaille jamais bien quand on est tout seul dans son coin. Et puis voilà, on est arrivé à une dizaine de fiches techniques qui correspondent à des documents d'urbanisme différents. Par exemple, on a fait une fiche qui est dédiée aux parcs naturels régionaux qui ont une charte et qui, dans cette charte, voilà, s'ils veulent parler de trains noirs, là aussi, on a été regarder ce qui se passait en bien dans d'autres parcs naturels régionaux en France et plutôt dans le sud et l'est de la France. Et comme ça, le parc naturel régional Loire-Joux-Touraine, par exemple, qui est sur le département du Maine-et-Loire, s'il souhaite, peut trouver des conseils intéressants dans cette fiche-là.
Et justement, on va y revenir. J'avoue que je me suis un petit peu perdu entre les circulaires, les différents arrêtés qui constituent le rapport. En tout cas, vous recommandez 2 niveaux d'application, à la fois à l'échelle régionale et départementale, à travers le schéma régional d'aménagement, la stratégie régionale pour la biodiversité ou encore les chartes des parcs naturels régionaux, et plutôt à l'échelle locale, à travers les SCOT, donc les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux.
Exactement, c'est ça. Ouais. C'est quand même assez compliqué l'urbanisme avec beaucoup de sigles. Alors voilà, nous, l'objectif, c'est qu'on a différents strates, on va dire, de collectivités en France. Hein. Voilà, on a la région, les conseils départementaux, les intercommunalités, comités d'agglomération, comités urbaines, comités de communes, et puis des communes. Et puis aussi, on a d'autres outils comme des parcs naturels régionaux. Et chacun, à son échelle, peut avoir un document d'urbanisme qui lui correspond et dans lequel on demande à ce que la trace noire, la pollution lumineuse, soit intégrée. Par exemple, vous parliez du niveau régional, il y a le SRADET, hein, qui est le schéma régional d'aménagement et développement durable des territoires, qui va être en enquête publique d'ici la fin de l'année en plus, donc il n'est pas tout à fait fini, donc on peut encore l'améliorer. Eh bien, on a travaillé avec les services de la région et les élus de la région à ce que la trace noire soit intégrée dans un des articles qui permettent après justement d'être déclinée sur les territoires, dans les schémas de cohérence territoriaux, si les collectivités le veulent. Et quand c'est inscrit dans un SCOT, après, la collectivité locale peut le reprendre dans un plan local d'urbanisme. Donc voilà, on a fait des propositions à chaque strate, maintenant aux collectivités de s'en saisir et de s'approprier notre guide.
D'où peut émaner la pollution dans les parcs naturels régionaux des milieux extérieurs et alentours, ou vraiment au sein des parcs naturels ?
Alors, un parc naturel régional, c'est pas une protection environnementale en tant que soi, c'est un territoire qui a choisi de travailler dans l'excellence, on va dire, environnementale et du développement durable, surtout avec un développement économique durable. Sur notre territoire, donc on est plutôt sur le territoire du Saumurois, quand vous le traversez, vous voyez pas forcément la différence avec un autre territoire. Il faut vraiment prendre le temps de se poser et de regarder ce qui a été fait ces dernières années en améliorant. Souvent, les PNR sont un territoire d'expérimentation. Hein, quand on reprend la ville de Saumur est justement en avance sur pas mal de collectivités parce qu'elles ont travaillé depuis 5 ou même 10 ans sur l'éclairage pour vraiment couper l'éclairage en certains quartiers et certaines parties de la ville en plus, en allant plus que ce que impose la réglementation, donc c'est très bien. Donc maintenant, c'est comment on développe ça, non pas à l'échelle d'une commune, mais à l'échelle d'un PNR. Donc sur tous les territoires, on a des efforts à faire. Le territoire du parc naturel régional est déjà un petit coup d'avance, et avec une gouvernance et avec des gens qui discutent ensemble depuis des années, donc qui permet aussi de faciliter le passage à une échelle un peu plus grande pour pouvoir travailler.
Il y a une partie de ce guide qui m'a intrigué, c'est le rappel des pouvoirs du maire. Il est notamment précisé que le maire doit s'assurer du respect des dispositions de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2018 sur la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses.
Oui, alors on s'est permis de rappeler ça parce que, je l'ai évoqué tout à l'heure, lorsqu'on a fait notre action sur Angers, on a rappelé au maire d'Angers qu'il avait un droit de police. On n'a pas eu de réponse à notre courrier et on pense que dans les actes, ça n'a pas abouti non plus. Donc on se rend compte que les élus qui ont pourtant ce pouvoir de police de faire respecter la réglementation ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'effectivement, c'est toujours compliqué d'aller voir un commerçant, en qui plus est dans une période qu'on connaît aujourd'hui de crise économique, de confinement, de couvre-feu et donc de fermeture, et de leur dire « Monsieur le commerçant, il faut respecter la réglementation ». Nous, on demande tout justement que de jouer le jeu. Alors, il faut certainement aller voir le commerçant en lui disant « Voilà, il faut l'informer, il faut le sensibiliser, ce qu'on a fait ». Et puis, effectivement, si le commerçant ne bouge pas et qu'il n'avance pas, qu'il ne respecte toujours pas la réglementation, la seule personne qui a un pouvoir de police pour pouvoir, à un moment donné, verbaliser, pour faire acter les choses, c'est le maire. Donc, à un moment donné, il faut avoir aussi le courage politique de le faire. On peut comprendre que, vu le contexte, ça peut demander du temps et des explications. C'est notre rôle, on y joue. Mais après, il faut aussi que les élus puissent suivre cela.
Et pour autant, on parle d'éteindre les vitrines entre 1h et 6h du matin. C'est pas non plus des horaires où les rues d'Angers sont très fréquentées.
Non, surtout si on a une étoile avec un couvre-feu à 19h. Donc, ça aurait été justement l'occasion pour beaucoup de commerçants et beaucoup de vitrines, etc., de jouer le jeu et de se rendre compte que finalement, l'éclairage là, sur ces horaires-là, est inutile, consomme de l'énergie, donc ne permet pas non plus d'atteindre les objectifs de transition énergétique, a un coût pour eux en termes de facture et a un impact sur le monde extérieur, donc la biodiversité et les voisins aussi.
Oui, donc le coût, le rapport risque-bénéfice est largement en faveur des bénéfices.
Ah ben effectivement, là, quand on regarde bénéfices économiques, impact sur la transition énergétique, impact sur la biodiversité, tout, on pourrait croire que l'ensemble des acteurs dit « Ok, on éteint, il y a une réglementation, on la respecte, et puis même on peut faire mieux. » Et ben, on a bon espoir, nous, justement, à travers la sensibilisation qu'on peut faire avec la sortie de ce guide et d'autres guides qui sont sortis dernièrement sur le sujet. Ça va permettre d'amener une prise de conscience. Nous, on est toujours un peu déçus, on trouve que ça va jamais assez vite. À nous de jouer aussi main dans la main avec les élus du territoire pour trouver la bonne vitesse, mais agir et que ça se voit.
Voilà, c'est ce que vous espérez de la suite de ce guide, une sorte de réaction qui puisse faire que vous travaillez ensuite avec les élus sur cette thématique.
Mais c'est qu'un élément dans notre stratégie associative de faire en sorte que ce sujet soit pris à bras-le-corps par les collectivités. Donc on est là sur le volet information, sensibilisation, explication. On a mené des opérations repérage des vitrines, etc. là aussi pour aller sensibiliser les commerçants. Bon après voilà, on va continuer notre travail, mais on espère bien que ça puisse servir. Et on va éviter d'arriver à un moment donné à devoir taper du poing sur la table et de saisir, on va dire, l'outil juridique pour pouvoir peut-être un jour, hélas, aller verbaliser une entreprise ou un commerçant qui n'a pas respecté ça. Je pense qu'il y a toute cette phase de porter à connaissance et cette émission radio y participe. Mais à un moment donné, on sait bien qu'en France, si on veut que les choses aillent jusqu'au bout, il faut parfois menacer, voire agir sur ce volet-là.
Oui, on comprend bien. En tout cas, c'est pas le but initial des démarches que vous menez.
Tout à fait.
Eh bien écoutez, merci Xavier d'être venu dans notre studio pour nous apporter vos précisions quant à la trame noire et la pollution lumineuse. Vous pouvez retrouver les ensembles des travaux de France Nature Environnement sur leur site France Nature Environnement 49 et ainsi que ce guide dans tous ses détails. Merci Xavier.
Merci beaucoup. Au revoir.
Je reste moi-même. Les autres étaient déjà pris, ça se déshabille pour faire l'actu. Leur vie dictée par des applis. Si t'es pas beau, si t'es pas riche, on t'éradique. Faut démarrer une thérapie. Tu veux mentir, bah c'est rapide et c'est gratuit. Sa vie à la troisième personne, ça se retouche sans vergogne. Ils veulent tous avoir l'air riche, elles veulent tout avoir l'air conne. Et ça passe vite comme l'air heureux pour un selfie. Garçon et fille, le regard vide, ils paraissent tristes malgré les filtres. Dans la vraie vie, tout aussi froid, je t'emmène un samedi soir.
Ça dit quoi?
Habille-toi, le trip en boîte finit en sale histoire. Malgré les rires, tout est faux, ça vient béflant, ça joue les riches. Ça l'est vraiment, moi je m'en fiche de tous ces gens. VIP qui se dilapide, je vois que des dalles dans un frigo. Ça méprise les caissières, mais ça se déguise pour un physio. Quand la fête est finie, c'est cyclique, ils redeviennent ces types radins. La mine grise, ils paraissent si tristes au petit matin.
Pour rien, si des mille, plaisir triste. Tu perds des heures sur un passe-temps et la vie se fiche. Chaque jour résonne comme un écho, la solution d'un petit problème devenue la cause de tous les autres. Je pourrais en citer mille, plaisir triste. Tu perds des heures sur un passe-temps et la vie se fige.
Chaque jour résonne comme un écho, la solution d'un petit problème devenu la cause de tous les autres. Tu payes ton verre pour l'attendrir, en te marrant à sa blague, tu comptes la maille qu'il a devant lui. Chaque jour t'es là, ça fait un mois, ça devient taré, tu viens de plus en plus tôt. T'es cramé, tu veux pas le payer juste pour miser plus gros, tu gagnes. Peut-être pas la vie stagnée, perdue. L'argent que tu mises, il compte pas, à part quand il est perdu. Jamais tu percutes. Et la vie passe vite, tu ressens plus la faim. Mais dans le café, y'a aucune vitamine, t'as vu ta mine. T'as joué 1000 balles, plus à ça près, tu le dis pas. Mais soir c'est ripat, la santé passe après. Tu les as tous zappés, t'as tous tes œufs dans le même panier. Photocopie de photocopie, tu te rappelles plus de la semaine passée. À croire qu'on a du temps à perdre, c'est sans appel. On se tend l'appel, on met de l'oseille dans un joint d'herbe et dans la taille. Vois dans la tête, ça se dégrade, mais qu'est-ce qui rend tout méga triste. À trop se vider le crâne, on va finir dans le négatif. J'étais garetti, mais déjà petit, je voyais les grands, je décolle. Et j'atterris jamais vraiment. Je deviens un casso sans vide bédave intarissable. Appelle-moi Hôtel Passo, je te roule des joints plus gros que des faritas. Marie-Jeanne, je l'emmène partout, toujours à bout. Parfois j'aimerais me planquer dans le mur comme les souris dans les cartoons. Je compte les buts, je roule des joints, je traîne dans le coin. Chaque année qui passe, c'est quelques rides en plus, c'est quelques rêves en moins.
De retour dans la Covidienne sur Radio Campus Angers. À l'instant, c'était Plaisir Triste d'Hugo TSR. Et on est maintenant en compagnie de Léo.
Salut Thibaut. Oui, effectivement, il y a de quoi faire en ce moment niveau contestation. Je vous ai déjà parlé de l'Irlande du Nord dans une précédente émission, d'Israël et Jérusalem-Est, où la colonisation de l'État israélien fait à nouveau couler beaucoup de sang, mais pas beaucoup d'encre. Mais on va aller voir ce qui se passe en Colombie. Voilà bientôt 2 semaines que le pays connaît des manifestations qui ont déjà fait entre 26 et 47 morts selon les sources officielles ou les assauts de défense des droits humains. La Colombie, c'est un État instable de longue date où la violence a souvent cours. Celle liée au trafic de drogue, aux FARC, aux violences policières, aux guérillas entre groupes armés. Notons que ce n'est pas un phénomène isolé propre à la Colombie, mais plutôt répandu sur le continent. La dernière descente de police dans une favela de Rio, au Brésil, a d'ailleurs fait 25 morts. Les événements des derniers jours en Colombie sont le troisième cycle de manifestations violentes depuis que le président de droite radicale Iván Duque est arrivé au pouvoir en 2018. Et déjà, les manifestations au départ pacifique prenaient une tournure sanglante. Au point que la Cour suprême de Colombie a présenté un jugement dans lequel elle demandait au gouvernement de garantir le droit des citoyens à manifester pacifiquement et exigeait des excuses pour excès de zèle des forces anti-émeutes. Le jugement déclarait enfin ceci, et je cite, « Une nation qui cherche à récupérer et à construire son identité démocratique ne peut considérer sa relation aux citoyens qui protestent légitimement sous l'angle ami-ennemi, droite-gauche, bon-mauvais, ami-ennemi de la paix. » Elle doit au contraire voir dans ces manifestations une expression politique qui tente d'ouvrir un espace de dialogue, de consensus et de reconstruction non violente de l'État constitutionnel de droit. Force est de constater que 2 ans après cet état des lieux, rien n'a changé en profondeur. Tout est parti d'une réforme fiscale proposée par le gouvernement qui devait surtout impacter la classe moyenne. Cette annonce a mis du monde dans la rue à côté du 28 avril. Le projet a depuis été retiré, mais les manifestations n'ont pas cessé et ont porté de nouveaux motifs de contestation. Justice sociale, réforme pour une vie digne, rappelons que 42% de la population colombienne est pauvre, et d'autres réformes pour le système de santé, le code du travail et la police. Face à des mobilisations qui ne faiblissent pas, les forces de police ont répondu par la violence. En 12 jours, plusieurs dizaines de morts, 1500 blessés. La garde indigène, symbolique, représentant les peuples amérindiens et non armés, a essuyé des tirs et déplore elle aussi des victimes. D'étranges milices se sont aussi mises en place contre les civils. Témoignant pour Blast, un Français a parlé des heures sombres, des faux positifs. Ces personnes qui étaient désignées comme étant des guérilleros, mais qui étaient surtout abattues par des milices payées par le pouvoir pour les faire passer par des guérilleros, alors qu'il ne s'agit que de civils. Là où le bât blesse, c'est dans la rupture totale des liens entre l'électorat et les élus. Ancien élu, tel l'ex-président Alvaro Uribe Vélez, qui écrivait sur Twitter, je cite, « Nous appuyons le droit de nos soldats et policiers à utiliser leurs armes pour défendre leur intégrité et défendre l'intégrité des personnes et biens contre les actions criminelles des terroristes et des vandales. » Nouveaux élus aussi, car à la suite d'une réunion entre gouvernement et porte-parole de la contestation, aucune revendication n'a été entendue. Ces derniers ont d'ailleurs appelé à poursuivre la grève. On voit mal comment la situation pourrait s'améliorer à court terme. Les points chauds de la contestation, en particulier la ville de Cali, à l'ouest du pays, sont à la limite de l'état de siège. Et le temps jouera nécessairement contre les contestataires, eux qui sont les premiers concernés par les pénuries d'essence et de nourriture qui s'installent déjà. La situation colombienne est de première urgence, mais les premières réactions internationales sont plutôt discrètes. L'ONU s'est alarmée quand la police a tiré sur des manifestants et a appelé au calme. Rien à ce sujet à l'ordre du jour de la dernière réunion des ministres des Affaires européennes, le 10 mai. Pas de communiqué non plus de la part des États-Unis ou d'Emmanuel Macron. Mais quoi qu'il en soit, ils ne pourront rien changer à l'aveuglement manifeste de la classe politique colombienne, au risque de plonger les souffrances de la population dans un continent déjà trop marqué par toute forme de violence.
Merci beaucoup Léo pour cette chronique. Il va être quant à nous et bien déjà l'heure de nous quitter. Merci d'avoir suivi cette émission. Restez branchés sur le 103 FM. Bonne soirée